RCF.
Vous êtes à l'écoute de Paroles protestantes, une émission proposée par le consistoire du Tarn de l'Église protestante unie de France sur les ondes de RCF Pays Tarnais et présentée donc par le pasteur Jean-Pierre Nizet et votre serviteur Bernard Tournier. Alors aujourd'hui, un sujet très intéressant que tu vas nous présenter, Jean-Pierre, comme tu vas nous présenter notre invité.
Alors on a la chance d'accueillir Sabine Rostin, alors qu'on connaît bien dans la communauté protestante de l'Albigeois, puisque Sabine est prédicatrice laïque et intervient aussi en tant que catéchète voilà, auprès des jeunes de notre communauté. Elle a en ce moment, elle est sur un projet de marionnette, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, en tout cas on l'a invitée aujourd'hui, c'est parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle « La légende de Sigéric » et avec pour sous-titre « La véritable histoire de la Via Francigena », un livre qui est une histoire familiale, nous a-t-elle dit, le fruit d'une émulation familiale, pour reprendre tes mots, on va se tutoyer Sabine, parce que c'est vrai qu'on se tutoie habituellement, ce sera peut-être plus simple pour nous. Sabine, alors ce livre, on va en parler, on va consacrer cette émission à ce, eh bien, à ce livre. Et donc, on entend parler là d'une Via Francigena. Peut-être on peut commencer par là. Cette Via Francigena, de quoi s'agit-il ?
Alors, cette Via Francigena, c'est un chemin que Sigéric de Cantorbéry a ouvert en 990 en faisant cette route qui, à l'époque, est une épopée extraordinaire de Cantorbéry jusque à Rome. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on ne peut faire ce voyage que à pied ou à cheval.
Et en bateau, parce qu'il faut quand même...
Ah oui, il faut un petit peu,
que,
oui, c'est vrai qu'on peut nager, mais c'est un peu long et risqué. Donc il, bien sûr, va prendre le bateau et ensuite il va bien sûr débarquer au Pas-de-Calais et il va faire tout ce chemin qui traverse en réalité à l'époque trois royaumes. Donc, alors il y a la Francie, parce qu'à l'époque, ça s'appelle comme ça, la Francie. Il y a le royaume de Bourgogne. Et ensuite, eh bien, nous avons l'Italie qui, à l'époque, est dans l'Empire germanique. Il faut savoir ça. Donc voilà, il va traverser ces trois royaumes, trois langues aussi différentes. Et il va arriver à Rome.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette Via Francigena, c'est une route de pèlerinage, et c'est un pèlerinage qui est apparemment très actif au Xe siècle. Bien sûr, le pèlerinage de Saint-Jacques n'existe pas encore. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les chrétiens, on va dire occidentaux, sont très, très présents sur cette route. Est-ce qu'on a des indications historiques ? Est-ce qu'on en sait davantage ?
Alors, en fait, vraiment, Sigéric, il ouvre cette route. Mais il va utiliser des anciennes voies romaines qui sont très utilisées. Donc, alors, j'en ai pas comme ça en tête, mais enfin, il y a plusieurs voies romaines qui font qu'il va particulièrement prendre ce trajet-là. Elles sont connues, parce qu'on se demandait comment Sigéric de Cantorbéry pouvait... Mais elles sont connues, ces voies romaines. Mais c'est après son trajet que ce chemin va devenir une véritable voie de pèlerinage. Il n'existe pas en tant que tel ce trajet, il y a des tronçons, mais c'est lui qui va relier tous ces tronçons.
D'accord. Et aujourd'hui, cette route existe toujours.
Elle est complètement existante, elle est active, et donc elle est même elle fait partie d'un chemin de pèlerinage qui est soutenu, promu par une association qui est l'AEVF, Association européenne de la Via Francigena. C'est un chemin de pèlerinage qui est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et donc à ce titre, eh bien, l'AEVF a pour mission de développer et de promouvoir ce chemin dans le respect des valeurs humaines et culturelles.
3200 kilomètres.
Ah oui, c'est incroyable.
C'est, bon, voilà, c'est une route, c'est un chemin.
Il faut être un bon marcheur. Hein.
Alors, on va parler maintenant de votre livre, parce que finalement, vous êtes arrêté sur la personne de Sigéric, qui est donc une personne, un personnage historique. Mmh. Il va à Rome d'ailleurs pour chercher le pallium, c'est-à-dire pour être consacré évêque.
Archevêque.
Oui, archevêque de Canterbury.
Exactement.
Bien sûr. Et donc, ce personnage, vous allez en faire, une fiction, enfin, de cette histoire.
Complètement.
Et vous allez, alors là, ça nous intéresse parce que moi, j'ai découvert votre livre, ça m'a passionné. Alors, c'est un genre littéraire atypique.
Oui.
C'est ce qu'on peut appeler le conte théâtral.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi ce projet, d'abord? Pourquoi vous êtes attaché à cette personne de Sigéric? Comment vous l'avez rencontré? Vous parlez d'une émulation familiale. Donc,
ouais,
comment ça
ouais,
s'est
ouais.
passé, tout ça? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de construire cette histoire autour du personnage historique, encore une fois, de Sigéric?
Alors, en fait, c'est une histoire absolument improbable au départ. C'est mon fils est comédien et donc il nous parle de cette voie de pèlerinage, de cette histoire. Et puis, bon, évidemment, il en parle avec son père qui est professeur d'histoire. Et on parle des origines de cette voie de pèlerinage. Nous, ici, dans le Sud, on connaît beaucoup plus Compostelle, en fait. La Via Francigena, on la connaît mal. Et moi, en en parlant autour de moi, je m'aperçois que les gens ne connaissent pas tellement cette voie de pèlerinage. Compostelle ayant, évidemment, pris beaucoup d'ampleur et plus proche de nous. Et du coup, mon mari se plonge, puisque Moyen-Âge... Alors, on est tous les deux des passionnés du Moyen-Âge. Moyen-Âge, voilà, c'était formidable. On découvre un personnage, une histoire... Et on commence à prendre des documents, à se renseigner, 10e siècle, qu'est-ce que ça peut être à cette époque, voilà. Et puis, me vient l'idée, alors c'était au mois d'août, en 2019, je me dis, mais quand même, ça serait chouette d'écrire cette histoire. Il y a tellement de choses qu'on peut raconter. Il faut savoir que Sigéric a retracé sur un petit calepin, alors un petit parchemin de l'époque, toutes les étapes, il y en a 81 de Canterbury à Rome, il a tout noté, mais c'est des choses, voilà, il s'est arrêté à tel endroit, donc on connaît chacune des étapes, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc je me disais, mais c'est formidable, on sait tous les lieux, mais il n'y a plus qu'à inventer l'histoire. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas se lancer d'inventer cette histoire, parce que finalement, un chemin de pèlerinage, je trouve que c'est extraordinaire, parce que c'est une métaphore de la vie. C'est un chemin de vie. On part de quelque part, on se dit qu'on va aller là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et finalement, c'est la foi de cet homme qui le porte jusqu'au bout. C'est très dangereux à l'époque, mais voilà, il y va. Et à nous d'essayer de nous représenter. Et je trouve que c'est très actuel, c'est-à-dire que dans la vie, ben, quelque part, on essaie de se dire qu'on va vivre vieux, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, on ne sait pas. Et j'ai trouvé que voilà, il y avait vraiment un sujet là.
Alors, Sigéric, très très vite dans cette quête, on peut dire, hein, parce que c'est presque une quête initiatique,
oui,
à vrai
complètement.
Dire. Hein. Et donc, très très vite, il va se retrouver avec un compagnon de route, Preuilly, qui est un ménestrel, un montreur de marionnettes, et on a l'impression que vous êtes finalement celle qui tirait les ficelles de tous ces personnages. On pense d'ailleurs à un théâtre de marionnettes
oui.
avec tous ces personnages. Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, de parler de chacun, parce que, à vrai dire, à chaque étape, il y a des rencontres, évidemment, parce que être en chemin, c'est s'ouvrir à l'inattendu et surtout aux rencontres. C'est l'expérience que vivent tous les pèlerins. Que vivent tous les pèlerins. Mais alors, il y a deux personnages qui, moi, m'ont interrogé, c'est, et qui ont vraiment leur importance, puisqu'on les retrouve à travers toute la trame hein, du récit, de l'aventure, c'est l'esprit des légendes et le diable.
Mmh.
Alors, voilà, on va rien divulguer hein, là, sur l'intrigue, parce que vraiment, c'est un livre que j'invite tous nos auditeurs à le lire, parce qu'on se régale vraiment, quoi, c'est truculent.
On donnera quelques coordonnées hein, à la fin de cette émission pour savoir comment se le procurer.
Et donc, sur les personnages, donc, l'esprit des légendes et le diable, alors qu'est-ce qui vous est venu?
Comment
vous avez construit cela et,
Alors, c'est un peu le combat du bien et du mal, hein, voilà, pour simplifier, mais je trouve que voilà, c'était important de montrer que derrière ce qui peut n'apparaître que comme un chemin, une route, un voyage qui a existé, qui est réel, il y a toujours des enjeux spirituels. Et les enjeux, c'est aussi comme, voilà, tu le disais, une quête initiatique. Il y a quelque chose en nous qui doit être mis en chemin, mis en route et quelquefois débloqué. Et je voulais que ce personnage parte d'un point de départ avec ses questions à lui. Là, il est un peu rigide au départ. Et puis qu'il s'assouplisse, que la vie, le travail, si je puis dire. Et je trouvais que de faire cet échange entre l'esprit des légendes, qui est un personnage plutôt positif, spirituel, et le diable, qui tient bien sa fonction de diable. Donc lui, il est là pour, au sens propre, nous faire trébucher. Je trouvais que c'était intéressant. Et j'avais en tête le pari de Job. C'est-à-dire, ce personnage à qui on enlève tout soudainement. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Comment ça mûrit en lui? Et puis, à l'origine de ce texte, il y a ce pari incroyable qui nous semble tout à fait révoltant entre Dieu et le diable en disant vas-y, enlève à Job et tu vas voir, enlève, c'est Dieu qui dit
oui,
ça.
Oui, il me restera fidèle.
Voilà, il me restera fidèle. Donc moi je me suis dit, mais on peut actualiser cette histoire parce qu'elle est vraie tout le temps. Comment je vais traverser les épreuves? Comment je vais garder un fil qui me fait tenir debout? Même si tous les événements à des moments peuvent me donner l'occasion de m'écrouler. C'était l'occasion pour moi de donner un espoir parce que on n'était pas encore dans le confinement et dans tout ça quand je l'ai écrit, mais je crois que dans la vie, de toute façon, on a besoin de ce fil qui nous tire.
C'est intéressant parce que j'entends effectivement une voie, un chemin, une histoire de pèlerinage. Alors dans le protestantisme, c'est sûr que le pèlerinage, c'est pas quelque chose qui nous marque, mais en même temps, il y a, vous le soulignez, Sabine, cet aspect pèlerinage qui est vraiment un chemin de vie et qui n'est pas simplement marcher. Il y a une mode des pèlerinages sur Compostelle. Et on s'aperçoit d'ailleurs que des personnes non croyantes arrivent à une certaine spiritualité.
Bon,
je vais faire cette petite parenthèse.
Et dans le sens de ce que vient de dire Bernard, dans le prolongement de ce que vient de dire Bernard, je crois que Sigéric, finalement, le pallium, on s'en moque un peu, quoi. Ouais. Et il devient un serviteur de Dieu à travers, évidemment, toutes ses aventures et à travers les choix qu'il devra poser, faire, les actes qu'il posera également. Et là, on se dit que ce voyage, cette aventure, c'était vraiment le creuset dans lequel s'est forgé un homme d'église qui d'ailleurs a eu un rayonnement très important, quoi, parce que Sigéric est considéré comme un grand archevêque aujourd'hui. Évidemment, c'est romancé, c'est une fiction, mais c'est vrai qu'il y a toute une lecture spirituelle du livre, et en même temps, il faut le dire, on s'amuse, parce qu'il y a un côté aussi Don Quichotte ce Sigéric et ce Proilly, ces deux êtres qui se retrouvent à cheminer ensemble, avec une amitié qui se tisse fil des aventures, qui est très très belle. Quoi. Et là aussi, on peut parler de fidélité, malgré les épreuves.
Alors, moi, c'est ça que j'ai voulu aussi faire ressentir, c'est-à-dire que quand on dit serviteur de Dieu, les gens peuvent entendre quelque chose de très servile, un peu, comment dire...
Soumis.
Soumis, voilà. Et j'ai voulu montrer qu'en réalité, cette dimension de servir Dieu est au service de principes, et de principes qui vont s'incarner dans la relation à l'autre. Et donc ce Sigéric qui au départ part avec cette mission de recevoir le pallium qui est déjà une marque de considération sociale importante, à la rigueur il n'a pas besoin d'amis, il n'a pas besoin, il a son objectif. Et il va s'apercevoir qu'en fait il lui manque l'essentiel. Alors, je vais laisser quand même le mystère
du
livre.
Il ne faut rien divulguer.
Mais quand même, c'était ça l'idée. C'est-à-dire que sans les autres, on est très pauvre, en fait. C'était ça le fil qui m'a tenu tout le long. Mais il fallait le montrer de manière d'abord amusante, parce que le but de ce livre, c'était de s'amuser et de faire qu'il y ait un peu de légèreté. Voilà.
Un côté comédie de l'art.
Voilà, hein.
On en reparlera en fin d'émission. On t'a proposé, Sabine, une plage musicale. Tiens, qu'est-ce qui t'intéresserait comme illustration musicale ? Bernard, tu as répondu un peu à la demande de Sabine. Tu voulais entendre le Salve Regina. Il y a une raison à cela ?
Oui, parce que dans l'acte 2, il y a un personnage, donc le Preuil, le chétif, qui tombe malade, et donc il y a une grosse angoisse, parce qu'à l'époque, les maladies sont très mal soignées, on va dire. Et du coup, il y a eu un moment où moi-même, quand j'ai écrit, je ne savais pas s'il allait guérir ou pas, parce qu'on est un peu submergé par ces personnages. Et moi-même, j'ai veillé Preuilly, et je l'ai veillé avec ce Salve Regina. Donc tout l'acte 2, je l'ai écrit avec cette musique. Donc je me disais que c'était quand même une musique qui permettait de... Bon, il s'en sort, hein. Voilà, ça a marché, le Salve Regina.
Voilà, donc un Salve Regina que vous allez entendre dans une version grégorienne et qui est interprétée par la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Vous êtes à l'écoute de Parole protestante, une émission qui vous est proposée par le consistoire du Tarn de l'Église protestante unie sur les ondes de RCF Pays Tarnais. Et nous recevons aujourd'hui Sabine Rostin pour son conte théâtral sur la légende de Sigéric.
Alors Sabine, on est très heureux de vous avoir parmi nous, de t'avoir parmi nous. On se tutoie, c'est vrai que c'est difficile de se voir en studio alors qu'on se tutoie habituellement. On va prendre le temps maintenant de parler finalement de la suite, parce que étrangement cette écriture va connaître des prolongements. Alors tu vas nous en parler, comment se poursuit l'aventure, parce que je crois que c'est intéressant de l'entendre pour nos auditeurs.
Donc en fait, comme je le disais en début d'émission, mon fils est comédien. Il m'a vraiment aidé à concevoir la dimension, c'est écrit en acte et en scène, la dimension vraiment, j'allais dire, imagée du livre, l'idée que c'était comme un ménestrel qui le jouerait devant des gens. Donc on a pensé ça de manière assez théâtrale. Et du coup, l'idée, bien sûr, naturelle a été de se dire, mais ce livre, on pourrait l'adapter en pièce de théâtre. Et donc, on est en train de travailler là depuis décembre avec une troupe de comédiens professionnels, l'adaptation théâtrale de la légende de Sigéric en théâtre de tréteaux, c'est-à-dire, théâtre
en plein air.
C'est fait... J'allais dire, c'est pensé comme ça, c'est en accord avec l'esprit du Moyen-Âge et même avec l'idée de pouvoir mettre quelques marionnettes, puisque marionnette, c'est vraiment un amour, moi, d'enfance. Je l'utilise dans mon métier. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est aussi une métaphore de la vie. Hein, on a tous, quelque part, un peu un fil qui nous tire malgré nous. Et donc, je voulais qu'il y ait un peu cette dimension. Donc, on est en train de travailler tout ça pour une représentation. Pourquoi pas sur le chemin de la Via Francigena, d'étape en étape, ça serait voilà,
ah,
ça formidable.
Serait vraiment
voilà,
extraordinaire, ouais. Quoi. Ah oui, vraiment, quoi. Donc, et alors là, c'est quelque chose qui se vit en partenariat avec les
Avec la EVF, hein, l'Association européenne de la Via Francigena, qui m'a donc fait l'honneur de me confier son logo européen, donc... qui va être donc apposé sur le livre « La légende de Sigéric » et avec qui on va travailler ce chemin, ce « Road to Rome » là qu'ils organisent à partir du printemps et qui va se dérouler jusqu'en automne. Voilà, des moments où on va pouvoir intervenir. Enfin, moi, je présenterai à certains moments... Voilà, j'espère pouvoir le faire, hein, vu les circonstances, mais enfin, on va toujours rester dans l'espérance. Et donc, pourquoi pas proposer aussi des animations théâtrales qui finalement, re-racontent cette origine.
Alors, c'est vrai qu'en lisant ce livre, on pense tout de suite à la Commedia dell'arte, oui. Et on voit les personnages évoluer sur une scène.
Oui, complètement.
Et donc, on se dit que finalement, dès le départ, il y avait peut-être cette idée d'un projet théâtral.
Oui, dès le départ, on avait un peu en tête de... Enfin, je veux dire, on est quand même influencé. On a un fils qui nous parle hein, de théâtre, etc. Bien sûr, ça nous influence. Et puis, j'ai trouvé que le ton léger, le ton un peu humoristique, avec tout ce côté médiéval, je trouvais que la Commedia dell'arte se prêtait vraiment bien à ce type d'histoire. Et donc, on l'a un peu pensé comme ça, avec des personnages surprenants qui peuvent surgir tout à coup, comme ça, voilà, qui sont issus de la Commedia. Mais l'idée, c'était vraiment que le spectateur puisse à la fois apprendre quelque chose, parce que les étapes ont été respectées. La dimension historique a été validée par mon mari prof d'histoire. Donc là, je suis tranquille et il a été sévère là-dessus. Il a même créé une carte lui-même qu'il a peinte à l'aquarelle, qui est dans le livre. Et donc, à partir de là, on a vraiment un déroulé qui peut permettre à quelqu'un, en s'amusant, en plaisantant, en étant sur la légèreté, le burlesque, mais de vraiment faire le chemin, et sérieusement, je dirais aussi, d'une certaine manière.
Alors, vous parlez de la carte. On est aussi agréablement surpris de voir toute une série d'illustrations qui accompagnent toutes les étapes de cette aventure. Et j'ai bien compris, c'est vous qui avez dessiné tous ces... Enfin, c'est toi qui as dessiné
Alors, c'était pas prévu du tout, mais comme c'est une auto-édition... Il a fallu mettre en page. Et en mettant en page, quelquefois, je me retrouvais avec simplement deux phrases en haut d'une page et des grands blancs. Et je trouvais que ça ne faisait pas joli, qu'il y avait voilà, une sorte de vide. Alors, ça fait 10 ans, maintenant, ça fait l'âge de ma fille, 11 ans que je n'ai pas repris les pinceaux parce qu'avant, j'avais un hobby qui était la peinture à l'huile. Donc, je me suis dit, bon, allez, on s'y remet. Et donc, comme j'avais un peu une appréhension, j'ai pris des tout petits post-it. Et je me suis dit, je vais essayer sur des petits post-it. Et en fait, de petits dessins en noir et blanc, comme ça,
au crayon.
Voilà, ouais. Au crayon, un peu dans le style gravure. J'ai fait une quarantaine de post-it comme ça. Et puis j'ai choisi ceux qui me semblaient les plus appropriés, qui illustrent les événements, les scénettes, qui permettent d'accrocher aussi pour le lecteur de se représenter. L'histoire, Et je pense que les retours que j'ai, je pense que ça aide, en fait, à se dire, on est là. Qu'est-ce que c'est qu'un château du Xe siècle? Donc, j'ai essayé de dessiner un petit château du Xe siècle qui n'est pas du tout les châteaux que nous, on a l'habitude de connaître puisqu'ils étaient tous en bois. Donc ça, voilà. Moi, je l'ai aussi, j'ai appris beaucoup de choses aussi, en écrivant la légende.
Alors... Sabine, malheureusement, on arrive là au terme de cette émission. Peut-être il serait important de dire où se procurer ce livre, comment, et puis vous vouliez parler peut-être aussi d'un site.
Voilà. Alors, en fait, on peut se procurer le livre sur le site que nous avons créé, qui s'appelle www.sigeric avec un Y, Francigena accroché,
Sigeric. Sigeric, S-Y-G-E-R-I-C.
Voilà. Ouais. Sigericfrancigena.com. Donc sur ce site, et ça permet effectivement d'avoir un petit, on va dire, un petit dossier de presse, hein, voilà, bien fait, qui montre un peu les trames de l'histoire, mais aussi l'actualité. Et donc à la fin, il y a un bon de commande, on peut tout à fait voilà, remplir ce bon, envoyer voilà, ce bon en fait, qui arrive directement sur mon mail. Et donc, à la Rabastens, puisque j'habite Rabastens, à la presse de Rabastens, c'est-à-dire la mégapole de Rabastens, nous avons aussi la chance que la dame de la presse a accepté de prendre quelques livres. Et donc, on peut aussi venir les chercher directement dans la presse de Rabastens.
Un dernier mot, Sabine. Alors, c'est intéressant. Vous avez parlé de votre profession. C'est quoi votre profession, justement?
Alors, moi, je suis psychanalyste, comme quoi tous les chemins mènent à Rome.
À Rome, bien sûr, là, nous sommes... Et c'est vrai que je me dis, je fais quand même le lien, puisque là aussi, en analyse, il y a aussi un chemin, il y a un pèlerinage, il y a aussi des étapes. C'est quand même troublant, hein, comme parallèle.
Mais je pense que c'est ça qui m'a intéressée. Je pense que je ne me serais jamais mise à écrire, puisque c'est la première fois que j'écris un ouvrage, j'ai pu écrire pour moi des petites choses, mais c'est la première fois que je vais de bout en bout, parce qu'en fait, cette histoire, pour moi, c'est l'histoire humaine, tout simplement.
Alors, comme on dit, il y avait une dream team, hein, l'historien, la psychanalyse, le comédien, et puis la petite chanteuse, Sarah.
Voilà, Sarah, ma fille.
Le printemps n'a point tant de fleurs, l'automne tant de raisins meurt.
Qui, voilà, elle a un don pour le chant et qui a chanté avec moi, puisqu'à la fin du livre, il y a une chanson. Et donc, elle a chanté a cappella avec moi cette chanson. Donc, non, franchement, je suis heureuse de cette aventure.
Merci Sabine, merci Jean-Pierre. Et à nous retrouver donc le mois prochain pour un nouveau numéro de notre Parole protestante sur RCF Pitarné.
Le printemps n'a point tant de fleurs, l'automne tant de raisins meurent, l'été tant de chaleur allée, l'hiver tant de froid, de gelée. Ni la mer n'a tant de poissons, ni l'Italie tant de moissons, ni la Bretagne tant d'arènes, ni la France y tant de fontaines. Que je porte au cœur ma maîtresse, pour vous d'amour et de liesse. Que je porte au cœur ma maîtresse, pour vous d'amour et de liesse. Vous êtes mon soleil, mamie, celle à qui j'ai donné ma vie. Et aucun homme en ce pays ne sera